Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les cahiers, les trousses et les cartables sont rangés dans les placards. Les 6 808 900 élèves du premier degré commencent officiellement leurs grandes vacances ce soir. L'occasion de dresser le bilan d'une première année de Jean-Michel Blanquer, placée sous le signe de l'innovation. Deux mesures en particulier ont été mises en avant par le ministre de l'Éducation nationale. Le dédoublement des CP dans certaines classes de REP+, passé ainsi à 12 élèves, ce qui devrait être étendu l'année prochaine et toucher certains CE1. L'expérience a en effet été accueillie très positivement malgré quelques problèmes de mise en place. L'autre axe important de la politique éducative de Jean-Michel Blanquer, c'est évidemment l'utilisation des neurosciences. Et là, c'est un aspect plus controversé, surtout dans sa tendance à en faire l'alpha et l'oméga de l'innovation, qui n'est pourtant pas une idée neuve en éducation. Freinet, Montessori, Steiner, Waldorf, ces noms vous disent sans doute quelque chose. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces pédagogies alternatives sont de plus en plus prisées par des enseignants du système public, mais l'école peut-elle se réformer de l'intérieur ? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. Quatre invités, il fallait bien ça pour aller au fond de ce sujet compliqué ce soir. Raymond Artis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la FCPE qui est donc la fédération
des conseils de parents d'élèves, une fédération qui a 300 000 adhérents.
300 000 adhérents et donc vous portez la voix des parents sans qui évidemment aucune innovation n'est possible à l'école, pas plus que si vous vous passez des enseignants ou des directrices d'école. Et justement, on a une enseignante et directrice d'école ici autour de cette table ce soir, c'est Véronique Descartes, bonsoir.
Bonsoir.
Vous officiez à Bobigny, dans une école à Bobigny, vous êtes l'auteur de Trop classe, point d'exclamation, saigné dans le 9-3, c'était publié chez Libertalia en 2016, et c'est justement une école, l'école que vous dirigez à Bobigny, qui s'inscrit, on va dire, dans le mouvement Freinet. Vous nous direz un petit peu de quoi il retourne. Jean Sour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice des Saventuriers, école de la recherche, qui forme des enseignants, c'est ça? Quel est exactement le but de ce lieu de formation?
Ce n'est pas exactement un lieu de formation, c'est un lieu atypique, qui est un programme créé et abrité par le Centre de Recherche Interdisciplinaire. Et nous avons trois axes d'action, directement dans les classes, projet d'éducation par la recherche de la maternelle jusqu'au lycée, formation, développement professionnel des enseignants et des éducateurs en général. Et troisièmement, fidèle à notre tradition universitaire, faire de la recherche.
Faire de la recherche, c'est aussi ce que fait Jean-Charles Caillé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président innovation de l'Université catholique de Lille, auteur de La classe renversée, l'innovation pédagogique par le changement de posture. C'était publié en 2017. Je n'ai pas cité La classe inversée. C'est peut-être une des innovations les plus récentes. Je crois qu'elle nous arrive depuis la fin des années 90, alors que Freinet et Montessori, là, on est plutôt au début du 20e, au tournant 19e, 20e siècle, voire un petit peu plus tard. Là, la classe inversée, c'est quelque chose de récent. En deux mots, ce que c'est la classe inversée?
C'est des façons un peu actives de travailler avec les étudiants ou les élèves. Donc vous avez des classes inversées, des classes renversées, des classes mutuelles. Enfin, elles portent toutes des noms un peu différents, mais ça revient à peu près aux mêmes choses, à promouvoir un peu le travail collaboratif en classe.
Oui, ce qu'on dit, c'est souvent suivre les cours à la maison et ensuite faire les exercices en classe, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, à savoir suivre des cours en classe et faire des exercices à la maison. Alors peut-être, d'abord, je le disais pour introduire cette émission, c'est la première année scolaire finalement de Jean-Michel Blanquer qui vient de prendre fin, et c'est vrai qu'il l'avait mise un petit peu sous le signe de l'innovation, en tout cas c'est comme ça qu'il était présenté. Donc je voulais vous interroger un petit peu d'abord sur cette notion d'innovation, avoir votre définition à vous, aux uns et aux autres, sur ce que ça veut dire l'innovation à l'école. Je vais peut-être commencer avec vous, Jean Sour.
Alors le terme innovation est un terme piégé. Est-ce que c'est une invention, une innovation par rapport à qui, par rapport à quel paradigme? Pourquoi Freinet serait une innovation? Par rapport à quoi? Par rapport à un statu quo? Historiquement, je ne sais pas. Je vais me référer beaucoup aux travaux d'André Tricot sur qui a examiné les mythes et les réalités derrière ce terme innovation et qui nous invite à les décortiquer. Les décortiquer non seulement du point de vue de la recherche, est-ce que c'est un paradigme nouveau pour que nous l'appelions innovation? Est-ce que c'est une nouvelle ingénierie sociale? Est-ce que c'est une innovation issue du terrain, de l'institution? Et puis, il y a des innovations extrêmement silencieuses que nous avons oublié d'appeler des innovations. Le rôle des parents à l'école, leur intervention dans les conseils d'administration, les conseils d'école, ça n'a pas toujours été évident dans l'école française. Donc, est-ce qu'une innovation réussie, c'est une innovation qui s'oublie? Alors, moi, je dis, par exemple, les aventuriers auront réussi lorsque nous serons devenus inutiles.
Voilà. Raymond Artis, puisque on parlait des parents d'élèves, elle a répondu à votre place, Jean Sauce, c'est ça que vous allez me dire?
Voilà, je l'ai dit qu'elle a pratiquement tout dit. Les innovations, effectivement, je crois aussi qu'elles se font quotidiennes. C'est celles qui s'affichent un petit peu le moins. C'est celles qui ne font pas appel à une grande pensée magique, mais qui sont comme ça sur le terrain et qui font avancer, en tout cas qui favorisent la réussite des jeunes.
Véronique Descartes, vous adhérez à cette définition de l'innovation ?
Moi, je me méfie beaucoup de cet adjectif. On va dire qu'au début du XXe siècle, ce qui était considéré comme l'école nouvelle était une école qui était basée sur la science, c'est-à-dire dans laquelle on n'apprenait plus les prières et les croyances, mais on apprenait des choses qui étaient avérées, qui étaient justifiées, qui étaient argumentées. Moi, je préfère le terme coopératif, le terme émancipateur, c'est-à-dire pour moi l'émancipation, c'est de faire que l'école offre aux enfants des choses que leurs parents ne pourraient pas leur apporter, c'est-à-dire leur donne à lire des livres que leurs parents ne leur auraient pas achetés, leur permettre de fréquenter des gens que leurs parents ne fréquenteraient pas nécessairement et emmène les enfants dans des lieux où les parents ne les auraient pas nécessairement emmenés. Je préfère très nettement l'adjectif émancipateur qui me paraît plus clairement définir le rôle de l'école dans la constitution de la nation.
Jean-Charles Caillé, vous allez être obligé de défendre ce terme d'innovation qui a été un petit peu mis à mal, là, puisque vous êtes vice-président innovation de l'Université catholique de Lille.
Donc moi, je me retrouve vraiment aussi dans ces définitions, la complémentarité. Ce que j'ajouterais, c'est le rôle de l'usager. C'est-à-dire que on ne peut parler d'innovation sans usager. Alors, on peut parler de créativité, par exemple, avoir des idées, des nouvelles façons d'enseigner, d'évaluer les élèves, de les faire travailler. Mais il faut éviter de passer dans ce qu'on appelle des transpositions. C'est-à-dire, moi, ce que je n'appelle pas une innovation pédagogique, c'est, par exemple, un enseignant qui passe de la méthode A à la méthode B. Donc, par exemple, il se dit, je vais arrêter de faire du cours magistral et puis je vais faire de la classe inversée, parce qu'il a vu que ça fonctionnait bien. Et là, il va imposer sa classe inversée, je dirais, à ses élèves. L'innovation, c'est quand une idée rencontre la main de l'utilisateur. Donc il faut absolument que les usagers, alors c'est les élèves, mais on peut élargir bien sûr, les parents, l'encadrement. Et pour ma part, concevoir une innovation sans que les élèves aussi aient leur part dans la modification, le mouvement, voilà, ce n'est pas un but en soi l'innovation, c'est une façon d'arriver à des choses. Et donc la part de l'élève, innover dans un cours en imposant une nouvelle méthode, ça revient à faire de la transposition et pas de l'innovation pédagogique.
Alors, parmi les innovations que je citais depuis l'arrivée du ministre de l'Éducation nationale, peut-être je me suis trompé de terme en définitive quand je parlais d'innovation pour le dédoublement des classes de CP par exemple. Est-ce qu'il faut parler selon vous d'innovation? Est-ce que c'est impropre? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut répondre et surtout quel bilan vous tirez finalement de cette proposition, Véronique Descartes?
Alors, je ne sais pas, parce que moi, j'ai passé toute ma carrière à manifester syndicalement pour avoir 30 élèves par classe, puis 25 élèves par classe, puis 20 élèves par classe. Et on avait, nous, sur le terrain, une claire conscience que plus il y a d'élèves dans une classe, moins il y a d'organisation positive des interactions. Et plus il y a de discipline, plus on est nombreux dans un lieu, plus l'école est grosse, plus il y a d'élèves, plus les classes sont chargées, plus le temps passé à l'organisation de la discipline se fait au détriment de l'organisation des apprentissages. Pendant 30 ans, tous les gouvernements successifs nous ont expliqué que non, ça n'avait rien à voir, que si on était des bons enseignants, on apprendrait à lire à 35 élèves par classe, comme à l'époque des hussards noirs, qui à l'époque n'y arrivaient pas. Donc là, on découvre avec le CP à 12 que à 12, c'est beaucoup plus simple pour tous les élèves et que ça apporte de bons résultats aux élèves dits fragiles.
On a un peu redécouvert l'eau tiède, c'est ça que vous êtes en train de me dire.
Néanmoins, les élèves avec des pathologies non soignées, les élèves qui ont des problèmes sociaux dramatiques, les élèves qui dorment à la rue, qui sont hébergés au 115, qui sont battus, qui sont handicapés et non soignés, qui sont malades, ne bénéficient pas des CPA 12. Et nous, on voudrait aussi des médecins scolaires.
Voilà qui est dit malgré tout. C'est vrai qu'on a vu dernièrement une certaine unanimité pour saluer ces classes à 12. Le SNUIPP-FSU, qui est donc le principal syndicat du primaire, a sorti une enquête, c'était le 25 juin, qui montre que 90% des enseignants estiment que le climat est plus apaisé, que 84% estiment que ça favorise les interactions avec les élèves. Donc il y a quand même quelque chose de positif. Évidemment, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Véronique Descartes, juste en disant, bah, on le savait depuis longtemps, il était bien temps de le faire. Raymond Arty, je rappelle que vous êtes président de la FCPE, donc la Fédération des parents d'élèves.
Oui, voilà, parce que sur ce sujet-là, je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une innovation, c'est simplement l'application d'une mesure de bon sens, hein. Véronique Descartes l'a dit fort justement. Et puis la promesse de réduire le nombre d'élèves en CP et puis bientôt en CE1, c'est une mesure généreuse, mais qui, de mon point de vue, est faite de façon précipitée. Bon, il y a des mesures techniques, mais ça peut se résoudre sans problème, hein. Les locaux pour accueillir un peu plus de classes, et puis surtout les moyens humains, puisque ce dispositif est mis en place effectivement avec un budget contraint, et on a le sentiment que on déshabille les milieux, les zones rurales pour habiller les REP+. Et en supplément, je ne suis pas sûr que tous les enfants qui méritent un traitement de leurs difficultés soient dans les REP+. Hein. Il me semble que ça ne touche pour le moment qu'un quart d'entre eux.
C'est un peu ce que sous-entendait en effet Véronique Descartes il y a un instant. Pour terminer sur cette question, ou peut-être avancer en genre, sauf si vous voulez revenir sur ce doublement des classes. Mais l'autre innovation que je citais en introduction, c'est évidemment la question des sciences cognitives, pédagogie et sciences cognitives. Et je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes tout à fait attentive. Or, c'est peut-être le sujet le plus polémique, j'allais dire, dans le sens où on a l'impression que ces sciences cognitives viennent en opposition aux innovations pédagogiques telles qu'elles ont été imaginées depuis un certain temps maintenant, mais vous faites non de la tête.
Premièrement, donc, vous avez utilisé le terme neurosciences, puissance cognitive, soyons assez attentifs au terme. Les neurosciences, c'est une approche fonctionnelle du cerveau, et les sciences cognitives, c'est une jeune science finalement, qui est interdisciplinaire, qui fait appel à énormément de disciplines, qui est dans la droite lignée de la psychologie cognitive, etc. Alors, est-ce qu'elle vient valider ou invalider, est-ce que c'est le rôle de la science de venir invalider ou valider des pratiques éducatives? Je ne suis pas certaine. La première préoccupation des scientifiques, c'est de produire des savoirs nouveaux. Donc, quand on se préoccupe, est-ce que telle méthode ou telle, elle est bonne ou pas, je ne suis pas certaine qu'on sorte... je crois qu'on sorte de science pour devenir de l'expertise. Alors, là, on les a introduits massivement au niveau du CSP. Est-ce que cela va impacter massivement les classes? Est-ce que les collègues sur le terrain... ça les perturbe plus que ça, je ne suis pas certaine. Par ailleurs, c'est une discipline contributrice comme une autre pour comprendre les phénomènes éducatifs. Il n'y a ni à leur jeter la pierre, ni à leur donner une puissance. À son époque, la sociologie a été prescriptive. Quand on a créé les zones d'éducation prioritaires, la préoccupation était de ne pas externaliser l'échec scolaire, de laisser le traitement de l'échec scolaire au sein de l'institution. Et ça a été les travaux des chercheurs français dans ce domaine ont été déterminants là-dessus. Pourquoi ne pas donner sa chance à une autre discipline? Sauf que les sciences ne doivent pas être prescriptives. Elles peuvent être conseillères, on peut travailler avec, mais pas obéir.
Oui, mais vous voyez bien, en genre de choses, qu'on a l'impression dans le discours ambiant qu'il y a quelque chose de tout à fait prescriptif et surtout qui s'oppose aux enseignements qui ont pu être tirés de la sociologie ces dernières années, en tout cas dans les discours tels qu'on les entend. Alors, dans les médias, peut-être que c'est pas le cas, oui. À l'intérieur, en effet, des écoles ou des institutions.
Honnêtement, je trouve qu'on a mis beaucoup d'eau dans le vin par rapport à il y a 2 ans, par exemple, où il y avait une espèce de croisade, plus fantasmée d'ailleurs que réelle, hein, parce que les enjeux universitaires ne sont pas les enjeux de terrain pour de vrai. Je suis vraiment pour être très circonspecte sur l'utilisation politique du terme neurosciences et sciences cognitives de ce qui se fait dans les laboratoires et la prudence exemplaire dont font montre les chercheurs eux-mêmes. Les chercheurs qui parlent par exemple de l'immense crise de la réplicabilité des résultats obtenus dans des conditions expérimentales en sciences cognitives ou en neurosciences.
Voilà. Ce qui évidemment rend ces résultats moins crédibles. Mmh. Jean-Charles Caillé, peut-être que c'est la nomination le 10 janvier 2018 par Jean-Michel Blanquer au Conseil scientifique de l'éducation nationale de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique, pour le coup professeur au Collège de France bien connu, qui a donné l'impression qu'on changeait, tout à l'heure en Jean de Sourd employait ce terme de paradigme, qu'on a changé de paradigme, qu'on a changé de regard sur l'innovation et sur la façon d'enseigner.
Nous, ce qu'on a essayé de faire à Lille, en tout cas, c'est de commencer par l'expérimentation. Donc, on s'est un peu affranchi des sciences de l'éducation, des sciences cognitives, et on a mis en place des chantiers expérimentaux avec des enseignants de faculté, des enseignants d'école, école d'ingénieurs, aussi d'instituts. Et selon, je dirais, les idées de chacun de ces enseignants, on a expérimenté. Alors, ça va. On a cité des noms de la classe inversée, renversée, mais on a travaillé aussi avec des méthodes co-élaboratives, du co-design, sur le serious game, serious gaming. On a travaillé aussi avec.
Ce qu'est le serious game.
Le serious game, c'est d'inventer des jeux, tandis que le serious gaming, c'est de les détourner. Donc on peut très bien, imaginons, détourner le jeu du Monopoly pour enseigner une matière, par exemple, ou alors créer complètement un jeu nouveau. Voilà. Et on est parti sur le champ expérimental. Alors évidemment, moi je travaille au niveau universitaire, mais comme on publie sur les blogs et de manière assez large ce que l'on fait, on est sollicité de manière très large par des enseignants, je dirais, j'aime mal dire, de la maternelle au doctorat, qui s'intéressent à ces méthodes co-élaboratives.
Alors peut-être qu'on a sauté une étape sur cette question de l'innovation, je m'en rends compte en vous écoutant, c'est tout simplement de s'interroger sur l'objectif visé par ces innovations, à savoir, est-ce que l'objectif c'est que les élèves apprennent mieux, est-ce que c'est l'objectif c'est de réduire les inégalités, par exemple scolaires, dont on sait que c'est l'un des plus grands fléaux de l'école en France, où à chaque enquête PISA on nous le rappelle, et on se rend compte qu'il est difficile en France de réduire les inégalités scolaires, est-ce que c'est par l'innovation, est-ce que c'est par d'autres moyens, est-ce que c'est pour repenser totalement une philosophie de l'école, par exemple la place de l'enseignant, par exemple la place de la notation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Véronique Decker? Question difficile.
Moi, si vous voulez, j'en pense que on parle beaucoup des neurosciences à la radio, mais que les maîtresses de CP, dans leur CP, elles parlent rarement des neurosciences, et puis que elles laissent, vous voyez, nous on est un mammouth avec des grands poils laineux, et il y a beaucoup de courants d'air, de temps en temps ça fait bouger un des poils du mammouth, mais en fait nous on continue d'année en année à apprendre à lire, à écrire et à compter aux gamins, avec des jetons, avec des bûchettes. Moi je travaille dans une municipalité qui vient de décider d'acheter 5 TNI, pour les classes, sachant qu'on est une ville de 50 000 habitants, dont il y a 10 000 enfants scolarisés. Et donc, des tableaux numériques interactifs.
Ah, hein.
Que moi, la connexion Internet de l'école, c'est du Wi-Fi qui marche pas.
C'est moins bien pour un tableau interactif.
Que les instits, les gamins, ils font des recherches sur le smartphone de leur maîtresse. Donc, si vous voulez, il y a d'un côté des gens qui réfléchissent à des tas de trucs, et puis d'un autre côté, il y a des gens qui continuent à avoir des cubes, des bûchettes, des lettres à manipuler, et qui font de la production d'écrits, qui écrivent à leurs correspondants, et qui écrivent avec un crayon de papier dans un cahier, pour lequel je voudrais rappeler au ministre qu'on n'a pas besoin qu'on nous donne la taille des cahiers, parce qu'on a des consciences et des habitudes plus claires sur l'usage des cahiers que les neuroscientifiques. Hein.
D'accord, ben ce voilà, sont les neuroscientifiques qui décident de la taille des cahiers désormais.
Son job.
Raymond Artis.
Non mais, vous savez, bon, comme le ministre s'appuie sur le silence, tout le monde est en train de se dire cela doit être très bien. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que moi, sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a pas de révolution. On parle du sujet depuis la fin du 19e siècle. Je crois que c'était 1899 hein, qu'on a commencé à parler de la plasticité cérébrale. Hein. Vous allez me contredire si je me trompe. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on avance dans la matière. Donc, il y a des intuitions qui sont confortées, il y a aussi des choses qui sont invalidées. J'ai cru comprendre, par exemple, que l'apprentissage des langues de façon précoce, c'est un peu remis en question. On ouvre aussi quelques pistes insoupçonnées qui n'ont pas encore cessé d'être explorées, qui commencent juste à s'explorer d'ailleurs. Donc, moi, je crois que les sciences cognitives, les neurosciences, appelons ça comme on veut, je crois que ça doit permettre d'orienter la réflexion et non pas imposer un chemin. Et aujourd'hui, nous avons un ministre qui communique là-dessus pour être dans l'injonction. Et puis, moi, je suis aussi inquiet des dérives que cela peut entraîner, puisque avec ces choses-là, j'ai l'impression que tout devient utile. Le cerveau est-il fait que pour apprendre d'ailleurs, hein? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Où est la construction de soi? Où est l'estime de soi? Où est la notion de plaisir? Donc tout devient très voilà, très fonctionnel, et puis ça me dérange quelque peu.
Oui, en effet, Véronique Decker disait que le mammouth bouge difficilement, parfois un poil sous le courant d'air, et en effet, on s'en rend compte. Par exemple, quand on voit des documentaires comme celui de Ludovic Vieuil sur, qui s'appelle Deux Cancres, et on voit ce père avec son enfant, lui était cancre, son enfant manifestement a des difficultés à l'école, et on se rend compte à l'écoute que peu de choses ont changé.
Alors, un nom peut être enrichi par un adjectif qualificatif. Bon, ça, tu le sais déjà.
Je sais plus ce que ça veut dire, enrichi.
Enrichi, par exemple, un nom, si je te dis le vélo est cassé, tu t'imagines un vélo. Mais si je te dis le vélo bleu est cassé, d'un coup, je t'enrichis le mot, le nom, vélo, d'un adjectif qui va te permettre d'avoir une information dessus. Donc, un nom peut être enrichi par un adjectif qualificatif, mais aussi par un complément du nom ou une proposition subordonnée relative. Je ne sais rien expliquer de tout ça. Proposition subordonnée relative...
Mais ça fait maman, alors.
Non, mais là, au secours.
Maman ?
Non, mais maman, elle est occupée, elle emmène...
C'est bon,
non,
grand-mère ?
Oui.
Ah bon ? Et c'est quoi une proposition subordonnée relative ?
Relative.
Ah bah merci, au moins je suis pas tout seul.
Non mais il faudrait que je m'en replonge.
C'est horrible.
Alors je vous propose pas de vous replonger dans les propositions subordonnées relatives. Véronique Descamps, évidemment tout le monde sourit à cet extrait. Malgré tout, il montre encore une fois la difficulté qui peut être celle. On nous parle beaucoup d'évolution, notamment d'évolution de la grammaire. Et puis on se rend compte que finalement ces propositions subordonnées relatives, elles sont encore enseignées, ce qui est plutôt une chose. Alors qu'on pourrait penser que, à écouter certains dirigeants politiques, qu'on n'enseigne plus la proposition subordonnée relative. Et deux, que ça pose toujours les mêmes types de difficultés dans la pédagogie.
Le problème de la grammaire, c'est d'arriver à faire comprendre aux enfants quelle est l'utilité de démonter. C'est un Lego, hein. La langue, c'est un Lego, on la monte, on la démonte. Mais dans la vie, en vrai, quand on utilise la télé, un fer à repasser ou une voiture, la première chose qu'on fait, c'est pas de la démonter, c'est de s'en servir. Voilà. Et pour moi, l'erreur pédagogique, c'est qu'on fait démonter des objets dont on n'a pas laissé aux enfants le temps de se servir vraiment. La première chose que les enfants doivent faire, c'est d'écrire. Et c'est en écrivant qu'ils vont avoir des complexités à gérer, des verbes à accorder, des antécédents à retrouver, hein, parce que... voilà, lorsque c'est les filles qui sont parties, ou si c'est le vélo qui est parti, eh ben évidemment parti, il faut faire quelque chose avec cet accord, et il faut bien trouver l'antécédent de la proposition. Mais si l'enfant n'est pas en train d'écrire, on lui fait démonter la télé à l'heure du match de foot, et il est réticent, je le comprends.
Oui, surtout quand on a des beaux matchs comme ce soir, je me répète, et on rentre en fin de plein pied dans le thème de la soirée de cette émission, à savoir justement comment ces pédagogies alternatives peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin. Et il y a un point commun dans, je sais pas toutes, mais en tout cas quand on regarde celle inventée par Maria Montessori, donc au début du XXe siècle, ce qu'a proposé Sébastien Freinet au tournant des années 20, ou encore plus récemment, Célestin Freinet, pardon. Au début des années 20, c'est que ces innovations, c'est aussi faire confiance aux élèves, faire confiance à la curiosité de l'élève. Je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre à ça, et ça répond parfaitement à ce que vient de dire Véronique Decker, Jean-Charles Caillé.
Oui, je pense que le mot-clé, c'est vraiment la confiance. Quand on regarde, par exemple, des témoignages d'enseignants, quels que soient les niveaux, qui expérimentent jusqu'à des innovations vraiment... particulièrement originale et intéressante, à chaque fois ce sont des enseignants qui osent un peu, alors souvent on dit changer de posture ou oser prendre des risques, mais c'est surtout faire confiance aux élèves, mais aussi que les élèves leur fassent confiance différemment, puisqu'on peut changer certaines règles, et si vous introduisez des modes de travail plus collaboratifs, qu'ils se fassent confiance entre eux. Je réponds aussi en faisant le lien avec la question de tout à l'heure, où vous m'avez demandé... Quels sont les objectifs finalement de l'innovation, sachant que l'innovation, je pense, n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'arriver à quelque chose, et ce que l'innovation n'est pas. Les objectifs de l'innovation, ça peut être par exemple des enseignants qui ont envie d'augmenter les résultats scolaires, des enseignants qui ont envie de limiter le décrochage, ça peut être dans les deux sens. On peut aussi innover si on a tout juste envie d'augmenter l'interaction entre les élèves. Il y a Salman Khan, l'auteur de la Khan Academy, qui disait que il existe une compétence qui est attendue par la société importante et qui est la capacité qu'a un élève à aider ses camarades de classe. Parce qu'un élève qui aide ses camarades de classe, demain matin, c'est un collaborateur qui va aider ses collaborateurs dans le travail. Et ce que l'on observe quand on innove, quand on expérimente, c'est que tout au contraire de s'opposer à l'enseignement académique, l'innovation pédagogique, puisqu'elle est complémentaire, elle redonne de la force à l'académique. C'est-à-dire que si vous tentez des expériences, des expérimentations, je pense aux aventuriers, mais à d'autres, eh bien, vous redonnez confiance, vous évitez d'écœurer certains élèves, et là, ils vont se replonger et reprendre du goût dans de l'enseignement le plus magistral.
Vous savez, la transition sur un plateau, Jean Charcas, justement, j'allais vous poser la question. En Jean Sourd, c'est évidemment, pour vous, au sein des Saventuriers, quelque chose d'essentiel, la question de cette question de la curiosité, des envies, d'aller peut-être vers moins de contraintes pour partir un petit peu plus de ce que proposent les élèves, en tout cas de ce vers quoi vont spontanément les élèves.
Effectivement, Saventuriers est né de la contrainte, en fait, de la contrainte qui est la vraie innovation, c'est sentir une pression sociale, scolaire, quelle qu'elle soit, et être contraint de trouver une solution. Et c'est ça les Saventuriers, c'est comment on peut faire réussir un maximum d'élèves, quel que soit leur background, dans toute leur hétérogénéité, et quels sont les outils dont nous disposons pour le faire réussir. Et la curiosité de l'élève est un formidable outil. Le problème, c'est qu'elle ne se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire, les enfants sont naturellement curieux, tout le monde le savait. Si on s'arrêtait à là, on n'aurait pas besoin de construire des écoles. Et justement, on enfermerait encore plus les enfants fragiles scolairement ou socialement dans une zone de confort proximale qui n'est pas ce que l'école, elle est un instrument de contrainte pour en sortir. Et donc, nous avons conçu Saventuriers pour répondre à cette question. Comment faire pour que les lieux de transmission de savoir que sont les écoles soit ouvert aux lieux de production des savoirs, qui sont dans les entreprises, les labos, l'atelier d'un artiste, peu importe, parce que c'est ainsi que nous allons redonner sens au métier de travailleur du savoir, qui est le métier de l'élève, comme le métier de l'éducateur. Donc voilà, Saventuriers, c'est on se sert des questions des élèves. Pour implémenter un projet d'éducation par la recherche, ce sont les questions des élèves. Et à partir de leurs questions, on va les amener dans une aventure d'émancipation intellectuelle, de rigueur, de créativité, et surtout d'acquisition d'une méthodologie scientifique, d'esprit critique scientifique.
On parle des élèves, il faut parler aussi évidemment du fait que ça change complètement le rôle des professeurs, c'est-à-dire que leur position même, de position de sachant, je ne reviendrai pas à ce que Jacques Rancière appelait le maître ignorant, il était revenu sur ses travaux de Joseph Jacotot, le maître ignorant, c'est-à-dire un professeur n'a pas besoin de savoir pour enseigner, ce qui était, je résume à grands traits, mais voilà, puisqu'il s'agit d'accompagner plutôt les élèves vers ce que lui ou elle a envie de faire, mais malgré tout, il s'agit quand même totalement de repenser, Raymond Artis, le rôle des professeurs. Est-ce que vous, en tant que parent d'élève, en tant que président de la FCPE, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible?
Oui, on y est sensible et la FCPE a toujours revendiqué d'ailleurs le droit de parler de pédagogie, même si on n'aime pas. Alors tout à l'heure, vous disiez, vous avez parlé de pédagogie alternative. Alors, moi, je fais un distinguo entre les pédagogies alternatives et les pédagogies innovantes. Parce que l'alternative, si vous voulez, ça a un côté exclusif. Voilà. Donc, je préfère aussi plutôt parler de la pertinence de mixer plusieurs approches dans une même classe pour que l'élève s'y retrouve. Alors, je ne sais pas si on va être d'accord avec ça, mais enfin, pour le moment, en tout cas, les enseignants du public le font déjà beaucoup. Les pratiques de classe évoluent, certainement pas aussi vite que l'on voudrait, mais elles évoluent. Pour autant, il reste des réticences fortes, des incompréhensions et parfois une éducation national qui a du mal avec ces innovations. Preuve encore, on était en train d'en parler tout à l'heure en antenne, la fin programmée des programmes freinés à Marc-en-Barœul au sein d'un groupe scolaire public. Donc voilà, il y a du mal. Comment ?
Ils sont revenus dessus.
Ils sont revenus dessus. Ben, tant mieux. Tant mieux alors.
Donc une bonne nouvelle ce soir au micro.
Une bonne
nouvelle.
C'est une deuxième bonne nouvelle après la victoire de l'équipe de France. Bon, alors pour nous, toute pédagogie de toute façon passe par les besoins de l'enfant et. Il faut se dire que les besoins des enfants ne sont pas tous les mêmes. D'où l'importance des pédagogies différenciées et l'importance du travail des enseignants et bien évidemment de leur formation à l'enseignement de ces pédagogies, ce qui vraisemblablement fait défaut pour le moment.
France Culture, du grain à moudre d'été, Raphaël Bourgois.
Le grain à moudre d'été, il est 18h45 et on parle ce soir de la capacité ou non de l'école à se réformer en ayant recours peut-être à des pédagogies alternatives. On en parle avec Raymond Artis qu'on vient d'entendre, qui est le président de la FCPE, avec Véronique Decker qui est enseignante et directrice d'une école à Bobigny, avec Ange Ansour, directrice des Saventuriers, et enfin avec Jean-Charles Caillé qui est vice-président innovation de l'Université catholique de Lille. Véronique Decker, sur ce qu'il vient d'être dit, et notamment, c'est ça qui est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître, sur l'idée selon laquelle on pourrait les piocher en quelque sorte dans différentes méthodes pour, à la carte, inventer des nouvelles pédagogies. Alors c'est peut-être une idée qui naît du fait que les professeurs et les enseignants et les directeurs et directrices d'école sont assez laissés à eux-mêmes face à ça, donc chacun fait un petit peu comme il veut, mais quel est votre sentiment là-dessus ?
Alors je pense que profondément, le grand non-dit autour de la pédagogie, c'est que la pédagogie, c'est politique, c'est-à-dire que la pédagogie qu'on pratique, elle dit quelque chose du monde qu'on voudrait voir advenir demain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu à la génération qui va nous suivre, mais comment on va mettre ces contenus. Et le contenu ne peut pas être séparé du contenant sans une réflexion. La pédagogie Freinet, elle est née de la détestation de la Première Guerre mondiale. Voilà, Freinet, il sort de la Première Guerre mondiale avec l'idée que c'est la der de der, qu'il faut plus jamais ça, qu'il faut plus de boucherie, et que donc il faut que les enfants apprennent à vivre dans un monde de paix. Donc il veut faire un mouvement international, que les enfants puissent correspondre avec des enfants de toutes les régions, de tous les pays, qu'ils aillent voir les lieux de production, qui sortent de l'école pour aller voir les choses, et en finir avec l'éducation militarisée des fameux hussards noirs de la République, dont je rappelle la responsabilité dans la haine des Allemands qui a porté la Première Guerre mondiale. Donc, la pédagogie, c'est d'abord politique. Et le mouvement Freinet assume ces faits-là, non pas un lien quelconque avec un quelconque parti politique, mais avec l'idée que si on veut une société plus écologiste, il faut faire de la pédagogie écologiste. Si on veut une société plus féministe, il faut faire de la pédagogie féministe. Si on veut une société moins raciste, il faut faire une pédagogie antiraciste dès le plus jeune âge, et il faut pas seulement viser la performance scolaire. C'est pour ça que moi je suis contre les écoles alternatives. Voilà, parce que l'école où on va se retrouver avec que les gens du même milieu social, c'est une école d'apartheid. Et ce n'est pas une école qui peut construire une vision antiraciste pour les enfants.
Alors qu'on comprenne bien, quand vous dites que vous êtes contre les écoles alternatives, vous visez quel type d'établissement ?
Ceux qui sont à 700 balles par mois, elles sont alternatives. La fameuse école qui est démocratique, qui s'appelle Démocratique à Paris, j'adore. Ils sont à combien par mois ? 1000 balles ? C'est la démocratie pour qui ?
C'est évidemment des euros et pas des francs quand vous dites 1000 balles.
C'est ça.
Véronique Decker, Jean-Charles Caillé, sur ce qui vient d'être dit. Oui. Cette dimension finalement très politique du choix de telle ou telle orientation pédagogique.
Oui, il y a des dimensions politiques. Après, libre à chaque établissement de les appliquer ou pas selon ses convictions. Par rapport aux pédagogies alternatives, moi, ce que je remarque aussi, parce que j'ai participé à quelques colloques aussi, congrès de pédagogie active, en fait, qui étaient limités aux pédagogies alternatives. Donc moi, je m'inspire beaucoup de ce qui peut venir de Montessori, Freinet, Steinert, etc. Mais c'est pas pour les copier ou les reproduire dans mon université. Mais c'est justement pour avoir de l'inspiration. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du rôle de l'enseignant, même si on l'élargit, bien sûr, bien plus qu'au-delà de l'enseignant. Mais vous avez parlé exemple, dans ces pédagogies, dans ces nouvelles façons de travailler en collaboratif, les enseignants qui doivent se poser des questions, justement, est-ce qu'ils doivent garder ce rôle de sachant, de transmission unique du savoir? Là, on est un peu dans une transaction bancaire du savoir, c'est-à-dire que j'ai un savoir et je le transmets aux élèves. Ou est-ce qu'on veut aussi favoriser le travail collaboratif, collectif? Et là, c'est un vrai choix politique aussi, dans certaines matières, où on fait travailler les élèves ensemble, de manière à peu parfois jusqu'à produire de la connaissance. C'est-à-dire que on accepte de faire travailler les élèves ou les étudiants de manière collective pour des exercices, des travaux pratiques ou stages et autres, mais on ne touche pas au cours magistral ou à la transmission de certains types de connaissances. Et les innovations pédagogiques permettent cela. Donc elles sont bénéfiques à l'enseignant autant qu'à l'élève. Et surtout, pour terminer, elles permettent aussi aux enseignants de travailler entre eux de manière collaborative et de sortir un peu de ce rôle un peu, de, entre guillemets, parfois, si on était méchant, de dire d'une certaine profession libérale où la classe est à moi et j'y suis à l'intérieur. On remarque que les innovations pédagogiques créent des mouvements, si on prend la classe inversée par exemple, créent des mouvements d'enseignants avec des échanges de pratiques qui n'existent pas forcément ou que je ne vois pas dans des modes d'enseignement académique.
En Jean de Sourd, vous intervenez dans les écoles, je le rappelle, avec les Saventuriers. Est-ce qu'il y a une résistance du mammouth, justement, pour reprendre cette expression? C'est-à-dire, on se dit qu'il est difficile, face à cette institution qu'est l'éducation nationale, de faire admettre, en tout cas c'est peut-être un préjugé qu'on a, de faire admettre ces pédagogies alternatives. On a le sentiment qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation et la rencontre miraculeuse de professeurs, de directeurs d'école et de parents d'élèves qui, tous ensemble, acceptent d'aller dans le même sens.
Je suis moins d'accord avec vous, parce que je ne crois pas que c'est un mammouth. Je vais recommencer. Je pense que l'école n'est ni une caisse de résonance de tout ce qui est nouveau, ni un monolithe. C'est quelque chose de visqueux, c'est un blob qui avance à son rythme très tranquillement, et tant mieux. Tant mieux, parce que voilà. Alors, en ce qui concerne Saventuriers, nous n'avons jamais rencontré la moindre résistance. Mais jamais. Alors, nous sommes actifs depuis un peu plus de 5 ans, présents sur l'ensemble de la France, dans 9 pays de la francophonie, et l'unique innovation née en France, qui aujourd'hui présente en Angleterre et en Chine, à la demande de l'Université de Beijing, l'École normale de Beijing. Donc je pense que quelque chose qui est fondamentalement né de manière horizontale dans les écoles en France, qu'elle soit de zone prioritaire où j'ai exercé moi-même ou ailleurs, avec la contribution de la recherche française dans toutes ses dimensions, montre que ce n'est pas vrai. En revanche, il y a du surinvestissement, il y a de la lenteur, parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est éthique ou pas? Est-ce que je vais dans le bon sens? Par exemple, j'entends beaucoup le mot collaboration. Est-ce que la collaboration est une vertu en soi ou c'est une modalité? Ce sont des bonnes questions à se poser. Moi, je crois que les enseignants, fondamentalement, sont des braconniers. Ils vont aller piocher à gauche, à droite, quitte parfois à dénaturer la nature politique d'un discours. Quand on va travailler avec Freinet, effectivement, il y a un discours politique extrêmement fort. La coopération, le conseil de classe, était pour restituer une démocratie dans une classe où les inégalités des apprentissages pouvaient croître de manière exponentielle, contrairement à ce qu'on croit. Et quand on revient, parce que quand on différencie, quand on tient compte de l'hétérogénéité, certains vont aller beaucoup plus vite que d'autres, et c'est normal. En revanche, quand on fait un conseil de classe, on a une voix, et on est un citoyen de la classe, quelles que soient ses notes, quelque part, quelles que soient ses performances. Donc voilà, et voilà. Nous, avec les Saventuriers, on a une conviction que cet enseignant, citoyen du 21e siècle, voire du 22e siècle, qui s'annonce bientôt pour les petits qui vont naître, il y a aujourd'hui une citoyenneté qui doit s'exercer dans l'esprit critique, construit avec des normes qui sont d'aujourd'hui saines, des normes scientifiques, voilà.
Raymond Artis, vous avez tout à l'heure évoqué le possible biais d'inégalité, notamment dans la politique de Jean-Michel Blanquer, entre les REP et les zones rurales. Est-ce que là, avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir la capacité de tel ou tel établissement à mettre en place des pédagogies alternatives, on ne s'achemine pas aussi vers une forme d'inégalité territoriale face à ce phénomène? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Oui.
Bon, l'inégalité, elle est déjà présente. Il ne faudrait pas croire qu'on est dans un monde de parfaite égalité en termes d'éducation. Mais malgré tout, est-ce que ça ne les creuserait pas?
Alors, je ne sais pas si ça les creuserait ou pas. En tout cas, en m'évitant, la question était, est-ce que l'école peut se réformer en interne? J'ai répondu tout à l'heure en disant qu'elle le peut. Elle le fait déjà au quotidien. Il y a beaucoup d'enseignants qui innovent. Maintenant, est-ce que le ministère soutient ces innovations? Pas suffisamment. J'ai dit que le nerf de la guerre reste la question de la formation des enseignants, qui devait être tournée plus vers l'ensemble des pédagogies dont on parle. Alors, c'est vrai que si il y a ce soutien, il est évident que on va certainement aller vers un peu moins d'inégalités que l'on a aujourd'hui. Ma voisine tout à l'heure a dit quelque chose de fort juste, c'est que la pédagogie qui est utilisée en classe est étroitement liée aux objectifs que l'on fixe à l'école. Alors, quels sont les objectifs qui sont fixés à l'école aujourd'hui? Nous souhaitons que le travail scolaire se développe l'autonomie des élèves et le travail collectif et donne aux enfants l'envie d'apprendre et surtout la capacité à réfléchir par eux-mêmes et qu'ils favorisent leur épanouissement au sein du groupe. Donc voilà le projet éducatif de la FCPE que l'on porte dans les établissements de France et de Navarre. Donc maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On n'est pas sûr. Et je disais tout à l'heure aussi que nous avons un ministre qui s'est à peu près exprimé sur tout, mais qui n'a finalement jamais encore parlé de son véritable projet pour l'école. Moi, je le ressens comme un projet libéral, une école libérale pour une société ultra-libérale. C'est notre sentiment.
Véronique Decker, pour terminer cette émission, justement sur cette capacité ou non que peuvent avoir les écoles publiques à innover et face à cette institution qu'est l'éducation nationale, vous qui êtes par exemple directrice d'école, est-ce que vous avez la possibilité de constituer votre équipe pédagogique? Tout simplement, on a le sentiment que c'est pas tout à fait le cas. Quels sont les moyens, les méthodes que vous pouvez utiliser vous pour associer finalement des professeurs à ce projet freiné qui est le vôtre?
Alors, c'est moi, je ne constitue pas mon équipe parce que je ne possède pas d'équipe. C'est plutôt une équipe qui possède une directrice. Vous voyez, c'est plutôt un peu dans l'autre sens que ça se passe en vrai. Donc, les gens qui viennent à l'école, comme je suis militant du mouvement Freinet, lorsqu'ils sont militants du mouvement Freinet, ils savent pourquoi ils viennent là. Et lorsqu'ils ne le sont pas, parfois c'est pour apprendre, parfois c'est par hasard. Et parfois ils restent et parfois ils repartent. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est très important dans une carrière d'enseignant, c'est de réfléchir et de progresser. C'est pas d'être bardé de certitudes. Et que quand dans une équipe, il y a 80% des enseignants qui changent, comme dans certaines écoles en Seine-Saint-Denis, ça ne peut pas fonctionner. Et quand dans une équipe, il n'y a personne qui bouge, ça ne peut pas fonctionner non plus. À un moment, il faut aussi qu'il y ait des gens qui arrivent. Oui. Le drame qu'on vit actuellement, c'est que les gens qui arrivent ont un niveau de formation qui est dramatiquement bas. Parce qu'on est passé de 3 années d'école normale à temps plein à une demi-année de formation assurée par des universitaires qui ne sont pas toujours bien au courant du métier d'instit, qui n'est pas exactement la même chose que prof de fac.
Le mot de la conclusion vous appartient, Jean-Charles Caillet. Je ne sais pas si vous allez défendre les profs de fac, mais
non,
en tout cas...
ce que je remarque, parce qu'on a parlé d'innovation, on a parlé du but de l'innovation, mais ce qui est vraiment si important, c'est la durabilité. C'est-à-dire, est-ce que les dynamiques d'innovation, peuvent durer dans le temps? Si vous avez un prof qui innove tout seul dans son coin, son innovation, elle peut disparaître avec lui. Ce qu'on remarque avec le développement des réseaux sociaux et la façon de communiquer, nous, on remarque qu'on est des profs de fac ou d'école d'ingénieurs. Mais on publie nos expérimentations, on rentre dans des communautés apprenantes et ça n'existait pas parce que moi c'est ma 30e année d'enseignement à l'université, mais c'est seulement depuis 5 à 6 ans qu'on pratique des échanges avec des profs de lycée, collège, école, maternelle et autres qui permettent de s'enrichir, de travailler ensemble. Et ça, c'est sans doute une des vertus de l'innovation pédagogique, c'est de créer ces communautés apprenantes.
Communauté et collaboration, on l'aura compris, ce sont les maîtres mots. Merci Jean-Charles Caillet, Ange Ansour, Véronique Decker et Raymond Artis d'avoir participé à cette émission du Grain à Moudre d'été. Toutes les références sont à retrouver sur notre page internet, notamment pour voir le très beau documentaire de Ludovic Vieuil, De Cancre, dont on a diffusé un extrait tout à l'heure. Cette émission a été préparée par Laila Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc, Marine Lerouge et Imen Mélaz. À la réalisation, c'était Anne Despelchin. À la prise de son, ce n'est plus Pierrick Consigny, mais Emmanuel Morse-Duncan.